Aurélien Scholl, l'idiote. Saintes est une jolie petite ville de la Charente inférieure, à quelques lieues de Rochefort. On y arrive par une belle et large avenue que coupe brusquement un pont suspendu d'un aspect assez élégant. De chaque côté de l'avenue s'élèvent des maisons neuves, bien bâti et à plusieurs étages. La vieille ville se compose de serres terreuses qui se lient les unes aux autres comme des fils d'une toile d'araignée. Les quais offrent aux habitants une charmante promenade. Ce n'est qu'à Rochefort, toutefois, que les eaux de la Charente, étroites et limpides en cet endroit, sont devenues dans un puits plus large, paresseuses et d'un jaune safran. De l'autre côté de la rivière s'étendent à perte de vue des prairies d'un vert tendre, coupées çà et là de bosquets touffus et humides. Sainte montre avec orgueil aux étrangers les ruines de ses arènes et sa cathédrale Sainte-Europe. Le long des quais et de l'avenue s'étalent des hôtelleries de nombre prodigieux. La grande affaire de Sainte, c'est le passage des messageries. Les diligences de Nantes et d'Angoulême, d'une part, de Bordeaux, de Mortagne et de Royan, de l'autre, viennent déjeuner, dîner et soir par un souper à Sainte, où la table d'hôte semble achever en paix sa longue et honorable carrière. Le 1er octobre 1850, à 4h du soir, on signalait à l'entrée du pont la diligence de Paris, qu'on pourrait aussi bien appeler la diligence de Tours, car déjà le chemin de fer qui va aujourd'hui jusqu'à Bordeaux évitait aux chevaux la moitié de leur route. Enfin, de Paris ou de Tours, la diligence arrivait. Les 5 chevaux aux croupes fumantes entraînaient la lourde machine. Le postillon faisait claquer son fouet de droite et de gauche, et le conducteur semblait tout joyeux de l'idée du gigot prochain. Les voyageurs descendirent pour reconnaître leurs effets. Un colonel retraité, 2 marchands de nouveautés qui venaient de faire à Paris un voyage annuel après lequel on affiche grand déballage, un pianiste qui infestait à l'époque fixe les départements de ses concerts, et 3 ou 4 bourgeois ou propriétaires de plus ou moins d'importance se hâtèrent vers le bureau. De la banquette, un jeune homme descendit, la casquette sur l'oreille, un bâton à la main, la pipe aux lèvres. On lui jeta un sac de nuit et une boîte plate au bois blanc. C'était ça, tout son bagage. « Monsieur, l'hôtel de la couronne, l'hôtel du bateau à vapeur, mon bon monsieur, les 3 étoiles, monsieur, à la dame, à la reine d'Angleterre, monsieur, au grand Condé. » Les voyageurs promettaient à toutes les servantes de descendre chez leur patron, ce qui n'empêchait pas les cris et les sollicitations de continuer. Le jeune homme de la banquette s'adressa à un garçon d'écurie. « Madame Duvivier, demanda-t-il, demeure-t-elle toujours sur la route de Ponce ?»« Oui, monsieur, tout au commencement, là, en face des gros marronniers. Merci. » Et il se mit en route en sifflotant. Après un quart d'heure de marche, il tourna à droite et s'arrêta bientôt devant une claire-voie peinte en vert que fermait un petit jardin fort frisées de chèvrefeuille, de clématite, de dahlia et de tournesol. Ah, c'est bien là, murmura-t-il de l'air d'un homme qui se défie de l'accueil qui lui sera recevoir. Après une courte hésitation, le jeune homme sembla se décider. Il souleva le loquet qui fermait la porte et s'avança dans le jardin. En 4 ou 5 enjambées, il se trouva sur le seuil de la maison. Une petite maison faite d'un étage et large de 3 fenêtres. Une vieille femme parut, son tricot à la main, ses lunettes sur le nez. Elle était vêtue d'une robe d'étoffe foncée. Un fichu à carreaux était jeté sur ses épaules. Ses cheveux gris s'enfonçaient sous un de ses bonnets tuyautés, comme on n'en trouve plus que sur les vieilles dames des vieilles provinces. Et comme cette visite inattendue avait interrompu brusquement son travail, Madame Duvivier avait passé derrière son oreille une interminable aiguille à tricoter. « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, mon ami ?»« Comment, ma reine, vous ne me reconnaissez pas ?» demanda le jeune homme. La vieille recula de 2 pas en joignant les mains. « Es-tu bien possible ?» s'écria-t-elle. « Eh oui, Bernard Durand, votre filleul. Mais entre donc, mon ami, entre. Oh, que je t'embrasse !» et que nous causions. » Le jeune homme parut visiblement soulagé. Il embrassa la vieille d'assez bonne grâce et la suivit dans sa pièce du rez-de-chaussée. Il plaça sa boîte et son sac de fin sur une chaise, son bâton dans un coin, et jeta les yeux autour de lui. La salle où il se trouvait semblait être le salon de réception de Madame Duvivier. Un fauteuil en velours d'Utrecht, 6 chaises de noyer, une grande taille ronde, table ronde bien cirée et bien frottée, et surtout une fameuse armoire garnie de fourrure en étaient les principaux meubles. Sur la cheminée, une pendule d'albâtre, ornée de serpents en cuivre aux 4 coins, s'épanouissait entre de vastes peintures lurées. Les bas avaient été soigneusement recouverts de cylindres de verre afin de protéger contre la poussière 2 bouquets de fleurs artificielles qui dataient du directoire. Au côté droit de la cheminée, une miniature encadrée de bois noir représentait, tant bien que mal, un officier des grenadiers. Et au côté gauche, la croix de la Légion d'honneur, encadrée comme le portrait, devait lui servir de pendant. Quelques lithographies, pompeusement décorées du nom de tableau, à cause des cadres, par Madame Duvivier, s'étalaient sans vergogne sur la tapisserie fanée. C'était autant d'épisodes de guerre de l'Empire. La galerie se terminait par une apothéose de Napoléon avec des officiers d'état-major dans les nuages. Un gros chat, pelotonné sur un tabouret, fixait sur Bernard Durand ses yeux débonnaires. « Tu dois avoir faim, mon pauvre enfant, » dit Madame Duvivier. « Attends, je vais te faire une omelette, et pendant ce temps-là, tu pourras commencer à dîner d'un restant de poulet. » Bernard Durand ne dit pas non. Madame Duvivier le fit passer dans la cuisine, et la bonne vieille s'empressa de lui mettre un couvert et d'étaler sur la table les petites richesses de son buffet. « Mais ah, ça, comment te trouves-tu, enceinte ? Depuis la mort de ta pauvre mère ?» Et ici, Madame Duvivier leva les yeux au ciel. « N'ai pas eu de tes nouvelles. Oh, si je m'attendais à voir quelqu'un, c'est certainement pas toi. Que fais-tu ? Gagnes-tu bien ta vie ?»« Ma foi, ma reine, je la gagne tout juste. Mais comme je n'ai jamais roulé sur l'or, je me contente de ce qui revient. J'ai étudié longtemps à l'école des beaux-arts, piché 2 ou 3 mètres, et maintenant, je fais des tableaux du mieux que je puis. » Et on me les achète quelquefois. On appelle ça être peintre. Madame Duvivier, qui battait les œufs dans un plat de terre rouge, ralentit les mouvements de sa fourchette. Oh, tu fais le portrait des gens riches ? Non, non, non. Je me suis donné au paysage. Ah, tu peins des campagnes ? Oui, ma reine, des arbres, des moutons, des rochers, des vaches, des moulins, et généralement tout ce qui concerne mon état. Mais dans l'idée que t'as eu de prendre ce métier-là, ton père était un si brave homme. Bernard se mordit les lèvres pour ne pas rire. Que voulez-vous, ma reine ? On fait ce qu'on peut. Et vous ? Oh, moi, mon ami, depuis la mort de mon pauvre parier, je ne pouvais plus souffrir dans mon débit de tabac, alors j'ai donné un bail à Madame Saint-Onge pour quelquefois par an qu'elle me paye. Et Duvivier avait acheté cette maison avec une vigne qui est à côté et que je te ferai voir tout à l'heure. Je suis donc rentré ici avec ma pauvre Gertrude et Dieu merci, nous vivons à notre aise avec les 1 000 francs de débit de tabac et une petite retraite de veuve d'officier. » Le nom de Gertrude avait embarrassé le jeune peintre. Il tournait et retournait dans sa tête une question qui lui semblait difficile à faire. Gertrude était la fille de Madame Duvivier. Bernard se la rapprochait guère que comme un souvenir de sa première confiance. Mais il n'avait pas oublié que la pauvre fille était devenue imbécile dès l'âge de 7 ans, à la suite d'une frayeur. Madame Duvivier posa l'omelette sur la table. Bernard se versa un grand verre de vin de Saint-Onge, puis, de l'air d'un homme qui se souvient, « Ah, mais au fait, s'écria-t-il, où est-elle donc, Gertrude ? Ah, dès qu'elle a vu un étranger, elle est montée dans sa chambre. Bon, ce sera rien, elle s'habituera à vous voir. Une belle fille, bah. Oh, je peux bien dire qu'il n'y avait pas beaucoup de semblable, si gentille dans le pays, et des yeux, et des cheveux, et une peau. Seulement, pas de tête du tout. Et depuis que cette vache l'a renversée dans le pré à M. Fournas, on peut bien dire que la petite n'a pas su ce que c'était qu'une idée. Innocente, comme au jour qu'elle est née, vois-tu. Oh, c'est peut-être un bien. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, pour qu'elle ne s'en aille pas tout droit au ciel. » Et Madame Duvivier essuya 2 larmes qui lui sillonnaient le visage. Et Bernard jeta un morceau de jambon au matou qui avait posé sur lui et les 2 pattes sur ses cuisses. « Allons, mon enfant, reprit la bonne femme. Il faut voir à t'installer un lit là-haut. Je te garderai le plus longtemps possible. Bien, madame Marianne, je resterai 15 jours avec vous si vous permettez, puis je m'en irai parcourir la Vendée et la Bretagne. Comme il te plaira, mon ami. J'aimais bien tendrement ta pauvre mère, et je t'aimerais bien aussi. Madame du Vivier embrassa de nouveau son filleul, et comme le repas était terminé, elle le précéda dans l'escalier du bois qui conduisait au premier étage. Le matou suivit en ronflant. Bernard Durand avait 25 ans. Les cheveux noirs, taillés en brosse, les yeux vifs et interrogateurs. Il plaisait au premier abord par un air de franchise et l'audace répandue sur toute sa physionomie. Sa voix, ses gestes, ses allures disaient cette inaltérable bonne humeur qui, au jour de misère, devient souvent de l'énergie. Bien des fois, à Paris, il avait déjeuné d'un petit pain et d'un gros calembour. Sa voix moqueuse et voilée ne manquait pas de charme, et sa petite taille, sa vivacité, sa pédulance lui donnaient un air enfantin qui appelait la sympathie. « Tiens, » dit Madame Duvivier en poussant une porte, « voilà la chambre que tu habiteras. Je vais te mettre des draps blancs et te donner des serviettes. La fenêtre ouvre sur la vigne. Oh, il y a quelques arbres fruitiers, vois-tu. Et là-bas, aux espaliers, des pêches délicieuses. Je te ferai goûter à tout cela. À gauche, c'est le potager. Il faut de tout dans une maison. Et ce petit coin-là, c'est pour les poules. J'ai fait mettre une claire-voie parce qu'elles abîmaient toutes les parterres. Alors, fais ta toilette, voilà du savon, puis nous ferons le tour de la propriété. Avec plaisir, ma reine. Vos rosiers en baume. Ah, dame, fit la bonne vieille avec satisfaction. On est au bon air ici, c'est pas comme à Paris. Bernard, la main appuyée sur la fenêtre, promena son regard sur les campagnes environnantes et aspira avec délice les senteurs âpres des prairies. Et quand il se retourna, il aperçut, debout sur le seuil de la porte, la plus charmante fille que le soleil eût éclairée pour lui, une beauté invraisemblable et qu'on aurait cru échapper de ce bois aux environs d'Athènes, où Shakespeare a placé Titiana. Muet d'étonnement et d'admiration, Bernard tourna la tête vers sa marraine comme pour l'interroger. Ah, c'est Gertrude, dit celle-ci. Elle commence à s'apprivoiser. N'aie pas peur, ma fille, ajouta-t-elle. C'est mon filleul, Bernard. Il était ton ami quand tu étais petite. Il va rester quelques jours avec nous. Alors viens l'embrasser. » Gertrude entra lentement, les yeux baissés, les mains jointes. Et Bernard put l'examiner à son aise. Comment cette admirable créature avait-elle pu naître de cette vieille femme et de cet officier de grenadier dont le portrait était accroché à la cheminée du salon? Quelle race avait pu pousser cette fleur merveilleuse? De quelle sève était nourrie cette noire et riche chevelure, sous les profondeurs de laquelle se détachait ce front pur et blême, ces tempes immaculées? Par quel prodige, enfin, cette vierge idiote semblait-elle être le modèle de la grâce et de l'harmonie? À ces réflexions, qui se succédaient rapidement dans son esprit, Bernard sentit son cœur se serrer. Et c'est vu qu'avec un respect presque religieux qu'il embrassa Gertrude. Le lendemain, il commença son portrait. Il y travaillait 2 heures chaque jour, puis il allait courir les campagnes, demandant à chaque paysage une page pour son album. Gertrude l'accompagnait souvent dans ses excursions. Bernard lui avait acheté une corde à sauter, et Gertrude aimait à courir jusqu'à perdre haleine. Et quand elle se sentait trop essoufflée et près de tomber, elle venait, toute rose, la bouche entrouverte, le sein soulevé, se jeter dans les bras de Bernard, qui la posait doucement sur l'herbe. Et Gertrude ne pouvait plus se passer de lui. Chaque matin, dès que sa mère avait fini de l'habiller, elle allait frapper à la porte de Bernard jusqu'à ce qu'il s'éveillât. Le peintre se tournait dolemment dans son lit. Voilà, ma petite Gertrude, disait-il. Lève-toi, criait impérieusement celle-ci. Un matin que Bernard avait eu plus de peine que de coutume à s'arracher de son lit, Gertrude vint l'appeler 2 ou 3 fois. Le peintre sortit enfin, mais Gertrude, qui le guettait, tapie contre le mur, lui appliqua un vigoureux soufflet et s'enfuit. Après l'avoir longtemps recherché dans la maison et dans le jardin, Madame Duvivier finit par la trouver au fond de la vigne, blottie dans un buisson et tout en larmes. Oh, je ne sais vraiment pas, dit Madame Duvivier à son filleul, ce qui travaille cette petite. Depuis que tu es ici, c'est un vrai démon. La bonne vieille attira sa fille sur son sein et l'embrassa. Ne pleure pas, mon enfant, lui dit-elle avec douceur. C'est oublié. Gertrude se dégagea des bras de sa mère. Elle considéra un instant Bernard en pleurant. Celui-ci lui tendit la main. Gertrude se jeta à son cou et colla ses lèvres froides sur les lèvres du jeune homme. Bernard se sentit pâlir. Un frisson lui passa de la tête aux pieds et il rendit ses baisers à Gertrude. Celle-ci fut bien vite consolée et on alla se mettre à table. C'est là, surtout, que la triste intimité de Gertrude se manifestait dans toute son horreur. Elle ne quittait pas les plats de l'œil. Elle suivait, avec une convoitise bestiale, les morceaux qui ne lui étaient pas destinés. Aussi valait-il qu'elle fût toujours la première servie. Sans cela, ce serait elle-même. Et Dieu sait comment. Madame Duvivier avait eu toutes les peines du monde à lui apprendre l'usage de la fourchette. Gertrude mangeait avec une gloutonnerie repoussante. Elle avait ces secousses de la tête qui suivent les mouvements de la mâchoire chez les chiens et semblent se jeter au-devant du moindre morceau qui ne vient pas assez vite. Et s'il y avait sur la table un gâteau ou toute autre espèce de friandise, Gertrude commençait par le dévorer. Et ce n'est qu'après avoir fini qu'elle se décidait à manger de la viande et du pain. En un mot, elle avait les instincts de la brute, et rien de civilisé, rien d'humain. Bernard ne pouvait la voir qu'avec un serrement de cœur. Il n'était pas sans connaître et sans expliquer toute l'impression que la jeunesse et la beauté de Gertrude avaient causée sur ses sens. Cependant, il n'osait pas trop s'arrêter à cette pensée. Et quand elle se présentait à son esprit, il haussait les épaules et se disait à lui-même: Allons donc, est-ce que c'est possible? Il évitait ordinairement de regarder Gertrude manger. Mais, cherchant un remède à à l'ardeur de ses baisers, il ne la perdit pas de vue ce matin-là et sortit de table plein de dégoût, presque effrayé. Il prit sa boîte et ses pinceaux, et Gertrude le regardait faire. « Tu sors ?» demanda-t-elle. « Oui, je vais jusqu'aux Trois Amandiers. »« Mais moi aussi. » Elle prit son large chapeau de paille. « Oh, c'est un peu loin, la chaleur est étouffante, ça ne fait rien. »« Mais voyez donc, ma reine, quel soleil !»« Allons, emmène-la, » dit Madame du Vivier, « pour faire voir que tu lui pardonnes. »« Avec plaisir, alors, partons. » Madame du Vivier les accompagna jusqu'à la porte du jardin et les regarda s'éloigner tous les deux. « C'est singulier, » pensa-t-elle. « Gertrude lui parle. Elle commence à avoir un peu de mémoire. Elle a retenu le nom des coiffes couleurs et... Oh !» La pauvre mère sentit ses yeux se mouiller. Elle murmura de nouveau une prière que bien des fois elle avait faite. « Mon Dieu, voilà si longtemps que je n'ai que la moitié de ma fille. » « Ne la rendrez-vous pas tout entière avant que je meure ?» Monticule de la Saintonge. Rien ne manque à l'encadrement de ce bassin limpide où frétillent de petits goujons tout resplendissants d'émail et d'argent. La colline est sillonnée de petits filets d'eau qui s'échappent d'étage en étang et commencent traînent jusqu'à la Charente les feuilles tombées, de façon à conserver au bassin toute sa pureté. Les peupliers, les saules qui l'entourent, conservent jusqu'à l'hiver une verdure vivace et printanière. Et c'est en cet endroit presque féerique qu'on appelle les Trois Amandiers, bien qu'on n'en ait jamais vu que deux. C'était une des journées les plus chaudes de la saison. Pas un souffle n'agitait le feuillage. Pas un nuage ne troublait la bleuité du monotonie de l'horizon. Le sol desséché semblait désespéré de la pluie. En arrivant au pied de la colline, Bertrand se débarrassa de sa veste de coutil et s'étendit paresseusement pour l'air sur l'herbe. Gertrude s'assit à côté de lui, ajouta son chapeau de paille et dénoua ses cheveux pour les rejeter en arrière. Bernard admirait silencieusement les longues tresses qui se jouaient autour de Gertrude. « Il fait chaud, » dit-elle. « Oh, je crois bien, » fit Bernard. Les pierres étouffent. Gertrude dégrafa son corsage et l'ouvrit brusquement. Le mouvement qu'elle fit mit à nu, dans toute leur blancheur, son cou et sa poitrine. Bernard ferma les yeux pour se punir d'avoir trop vu, et accablé par la chaleur et par la marche, il tomba dans un assoupissement plein de rêves. Il lui sembla que Gertrude le regardait. Le voyant endormi, elle se déshabillait lentement et s'avançant jusqu'au bord du bassin, elle agitait l'eau de son petit pied. Elle hésitait, faisant un pas sur le sable, puis reculait tout à coup avec effroi. Familiarisée enfin avec la fraîcheur de l'eau, elle se plongeait avec délices dans le lac où de grandes rides allaient lui en s'éloignant autour d'elle. Une sauterelle verte à ailes bleues qui vint faire une bond sur le front de Bernard interrompit son rêve. Il se tourna de l'autre côté, mais il fut réveillé brusquement par une sensation froide suivi d'un éclat de rire. Il se secoua et aperçut Gertrude, blanche et nue, qui le contemplait en lui passant ses cheveux mouillés sur le figure. L'eau roulait encore en perles brillantes sur ses épaules et sur son sein. « Et tu t'es donc baigné ?» demanda-t-il, « tout éperdu. » Gertrude fit un mouvement de tête pour répondre « oui ». « Mais tu avais bien chaud, tu devais être malade. »« Mais non, » dit-elle. « Allez, habille-toi vite, » reprit Bernard. « Si on venait, nous serions grondés. »« Mais tu es mon mari, » fit l'idiote. « Allez, habille-toi donc, petite malheureuse, » s'écria le peintre avec colère. « Habille-toi, je m'en vais tout seul. » Il se leva et fit quelques pas. Gertrude le saisit par le bras et se dressant dans son éclatante nudité, « Tu me laisses ?» demanda-t-elle avec douceur. « Non, » répondit Bernard en passant une main devant ses yeux. « Non, je ne te laisse pas, mais pour l'amour de Dieu, habille-toi !» Gertrude obéit. Et quand elle eut repris ses vêtements, il fallait la peigner. « Prends bien garde, » lui dit Bernard. « Ne pas raconter à ta mère que tu t'es baignée. Oh, je ne dirai rien. »« Elle, bien sûr que tu ne diras rien. » « Mais tu es mon mari !» répéta Gertrude. « Oh, Jean-Jacques !» pensa Bernard, qui était philosophe. « Encore on a pu le voir. » Les cheveux de l'idiote eurent tout le temps de sécher en chemin, et Madame Duvivier ne s'aperçut de rien. Bernard se retira dans sa chambre et se mit à songer. L'image de Gertrude le poursuivait. Il la voyait toujours si belle, si divinement vierge. Les sentiments les plus opposés luttaient dans son cœur. Il se la représentait toute l'infamie d'une séduction si facile. Il se rappelait l'accueil qu'il avait reçu de sa bonne vieille marraine dont il mangeait le pain. Puis oubliait tout pour ne plus voir que l'éblouissante splendeur que cette Ève candide avait étalée à ses yeux. Gertrude l'aimait d'ailleurs. Elle l'aimait autant qu'il lui était donné d'aimer. Le déshonneur n'est-il pas une convention? Et qui sait si l'amour ne rendrait pas à Gertrude ce qu'un accident lui avait enlevé? Si ses facultés endormies ne se réveilleraient pas, si cette chrysalide secouant son engourdissement, sa torpeur, ne redeviendrait pas à la vie complète et régénérée. La voix de Madame Duvivier, qui l'appelait pour souper, vint arracher Bernard à ses réflexions. Gertrude était déjà à table et regardait attentivement le buffet. Cette fois, Bernard évita de laisser tomber les yeux sur elle pendant qu'elle mangeait. Madame Duvivier demanda comment s'était passée la promenade. Bernard lui répondit vaguement et avec distraction. Cependant, il lui sembla que Gertrude rougit quand sa mère parla du lac et du Ciron. Après le dîner, Madame Duvivier, assise sur le seuil de la porte, et son chien à côté d'elle, se mit à tricoter en prenant le frais. Bernard fumait sa pipe dans la grande allée qui séparait la vigne blanche de la vigne rouge. Il marchait avec plus d'agitation que de coutume. Gertrude le suivait pas à pas. « Écoute, Gertrude, lui dit le peintre, « viens avec moi par ici et comprends bien ce que je vais te dire. » Bernard lui prit la main. « Tu trembles ?» lui dit-elle. « Non, ce n'est rien. Écoute-moi. M'aimes-tu ? » ?»« Oui. Eh bien, ce soir, quand tu entendras sonner 10 heures à Sainte-Europe, mais sauras-tu compter les heures? Oh oui! Tu regarderas si ta mère dort. Et si tu la vois bien endormie, tu descendras tout doucement, comme tu sais le faire quand tu veux guetter quelqu'un. Gertrude fit signe qu'elle comprenait. Je t'attendrai sous la tonnelle. Nous ferons une promenade de nuit, tu veux? Oui. Alors n'y manque pas et surtout prends bien garde. Si ta mère s'apercevait de quelque chose, je partirais et tu ne me verrais peut-être plus. L'idiote n'avait pas perdu un mot de ce que lui avait dit Bernard. « Je compterai les heures, » répéta-t-elle, « et je viendrai. » Bernard l'embrassa et reprit sa promenade. À 10 heures, Madame Duvivier, dont le travail avait été interrompu par les approches de la nuit, rentra chez elle et alluma une lampe de cuivre. « Gertrude, » cria-t-elle, « il faut se coucher, mon enfant. » « Au 10e coup de cloche, » lui répéta Bernard. « Oui, je viendrai, » affirma Gertrude. Bernard l'accompagna jusque dans la cuisine. Madame Duvivier était occupée à ranger son vaisselier. « Vous vous couchez déjà, ma reine ?»« Ah, c'est l'heure, mon ami. Tôt couché, tôt levé. La vie n'y perd rien. Allons, bonsoir. Bonsoir, mon enfant. » Attends un peu que je t'embrasse. » La bonne vieille dame regarda son filleul avec attendrissement. « Oh, je songe à ta pauvre mère, » lui dit-elle, « comme elle était heureuse, ici avec nous, si le bon Dieu nous l'avait laissée. Ce sont toujours les bons qui partent. C'est moi qui ai fait son mariage. Et quand elle est venue au monde, elle t'a embrassé la première et moi la seconde. Ton père n'a été que le troisième. Enfin, il ne faut pas que je songe à tout ça. Ça, je ne finirai pas de bavarder. Les vieilles gens aiment tous à causer, vois-tu. Tu as bien vu au moins que je ne manquais pas jamais de lui porter des fleurs au cimetière. Je lui ai fait une petite chapelle, et tous les ans, le jour de sa fête, je lui change sa couronne d'immortel. Pauvre Madeleine, je l'aimais tant. » Et Madame Duvivier essuya des larmes qui sillonnaient ses vieilles joues, sans couleur, mais d'un mat solide et d'une santé vertueuse. « Allons, » reprit-elle, « bonne nuit, mon enfant. Je t'aime bien, toi aussi. Ah. Et tout ce qu'il y aura eu ben, chez la marraine, tant qu'il y en aura, tu peux être bien sûr de n'en pas manquer. » Bernard était profondément ému. Il avait oublié l'atelier, les camarades et les Lazzi de la rue de l'Ouest. Il monta dans sa chambre et, prenant sa tête entre ses mains, il pleura abondamment. La cloche de Sainte-Trope sonna la demi après 9 heures. Il se leva et, sans manque de résolution, il prit son sac en main, sa boîte à couleurs et son bâton de voyage. Il alluma sa pipe et descendit. Mais au lieu de se diriger vers la tonnelle, il enjamba le passage et se trouva sur la route. Le ciel était parsemé d'étoiles. La lune se levait derrière les peupliers qui bordaient la Charente, et la prairie excitait l'âpre et délicieuse senteur des regains. C'était une de ces nuits qui font aimer la vie. Bernard se mit hardiment en route. Son cœur battait violemment. Et au détour du chemin, il jeta un dernier regard sur la maison de sa marraine, regard plein de larmes et d'amour. Tout à coup, il fit un pas en avant. Il avait semblé voir une ombre blanche traverser la ville. L'image de Gertrude, sortant du bain, passa devant lui comme un fantôme. Il eut un mouvement d'hésitation, mais faisant un brusque retour sur lui-même. « Non, non, ce serait trop lâche, » dit-il. Il tourna promptement le coin de la route, pressa le pas et disparut. La chair était vaincue.